Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que aujourd'hui c'est une leçon et comme vous savez, j'adore ça. Aujourd'hui j'ai passé 30 minutes avec l'un d'entre vous et je dis l'un d'entre vous parce que pour une fois c'est un garçon et ça me fait quand même bien plaisir parce que je dois dire que j'ai quand même une audience, enfin en tout cas sur les leçons, qui est avant toute chose féminine. Je crois savoir pourtant que vous êtes 50% d'hommes ici, mais bizarrement vous ne me posez pas trop de questions pour les leçons messieurs, alors je vous engage à le faire. Bref, merci Mathieu d'avoir accepté de te jeter à l'eau. Je suis donc avec Mathieu aujourd'hui qui m'a fait le plaisir de me poser une question très intéressante, même si pas facile, je dois l'admettre. Mathieu est à la tête d'un domaine viticole, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, si jamais vous souhaitez goûter le vin que je suis sûre sera délicieux que Mathieu est en train d'essayer de commercialiser. La question de Mathieu est donc la suivante, il me demande comment développer à l'international son groupe dans le domaine du vin. Il a déjà l'habitude de travailler avec l'Angleterre, mais va ouvrir dans d'autres pays son commerce, et c'est donc exactement ce dont on a parlé dans le cadre de cette leçon. Évidemment, il n'y a pas de recette magique, évidemment, il n'y a pas une seule recette, évidemment, ça va être beaucoup de travail, il va falloir s'accrocher. Mais j'ai donné à Mathieu dans cette leçon quelques clés pour pouvoir l'aider. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du podcast. Salut Mathieu.
Bonjour Pauline.
Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Mathieu, comme le veut la coutume, s'il te plaît, pourrais-tu commencer par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, et puis bien sûr aussi qu'est-ce qui t'amène ici avec moi sur cette leçon?
Alors, donc, je m'appelle Mathieu Cronier, je suis le directeur et l'œnologue d'un domaine viticole dans le sud-ouest de la France. Donc, on est dans le Lot-et-Garonne, dans l'appellation Côte de Duras. Et donc, je suis à la tête d'un domaine viticole qui appartient depuis janvier à une fondation hollandaise, mais qui a été pendant de nombreuses années la propriété d'anglais du fait d'un gros groupe. Et bien, du coup, on a un gros groupe de clients et d'amoureux du domaine en Angleterre. On a pu créer par le passé un groupe de clubs privilèges sur l'Angleterre et donc ça nous a permis de vendre beaucoup de vin sur la partie anglaise.
Cool, très très sympa, j'adore le vin. Donc écoute, j'ai déjà plein de questions pour toi, mais je vais d'abord te demander, si ça te dérange pas, de me dire du coup quelle est la problématique qui te taraude en ce moment et qui fait qu'on se parle en ce moment.
Donc du coup, du fait des nouveaux projets qui sont en route, donc on va lancer un nouveau site web. Avec un focus bien sûr sur l'Angleterre, mais aussi sur la France, qui malheureusement n'a jamais été un client privilégié par le passé, et aussi la Hollande, du fait de cette fondation hollandaise. Donc avec un e-shop dans ces trois langues, avec des stockages dans chaque pays. Et donc ça va se lancer incessamment sous peu. On a quasiment fini le site web et les différentes contentes sur dans les trois langues. Et du coup, je voudrais avoir un peu tes conseils et avis sur le lancement de ces e-shops et pourquoi pas un début de club privilège sur la France et la Hollande sur la partie vente de vin.
Écoute, hyper intéressant comme question. Alors, malheureusement, je crains, Mathieu, mais je pense que tu le sais qu'en 30 minutes, on va pas pouvoir répondre à cette question suffisamment en détail pour que tu aies un plan d'action concret, parce que c'est tellement complexe. J'aurais adoré te dire en 20 minutes, bam, bam, merci, voilà ce qu'il faut faire. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Je pense que justement, ce qui est intéressant sur le développement international, et pour tout dire, je le vis de plein fouet avec Gemio, parce que là, on a ouvert, alors pour l'instant, la Belgique, la Suisse, et on a d'autres pays qu'on est en train de commencer à travailler, je vois bien justement que c'est un travail de longue haleine. Et donc ça, c'est peut-être la première chose que je peux te dire, c'est que c'est un travail qui se fait pas juste en un claquement de doigts, ça paraît évident, mais il faut le dire, et ça nécessite du coup d'avoir une certaine organisation, Je sais pas comment vous vous êtes organisé en interne, mais nous, par exemple, tu vois, chez Gemio, on est en train de mettre en place justement une équipe qui est vraiment dédiée à l'international, de telle sorte que ça soit pas, si tu veux, la cinquième roue du carrosse qu'on oublie un peu de temps en temps, parce qu'en fait, on a le quotidien qui nous rattrape et qu'on est un peu le nez dans le guidon. L'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes ou une personne ou toi, je sais pas, qui soit dédiée en fait au développement, bah, par exemple, de la Hollande et ou de l'Angleterre. Et avec un certain nombre d'indicateurs, tu vois, qui sont intéressants pour vous. Donc, peut-être le nombre de clients, peut-être dans un premier temps, c'est en B2B. Donc, ça va être des, je sais pas, des leads sans être des clients à proprement parler. Je sais pas. C'est à vous de le définir. Mais de telle sorte, tu vois, que vraiment, en fait, il y a des ressources, quoi, tout simplement, qui soient affectées à ce projet.
Alors le projet, c'est surtout sur cette partie-là du B2C. Donc du coup, en effet, oui, on va organiser les équipes pour pouvoir bien réaliser ce lancement et après l'organisation. Donc on va avoir les stockages qui vont envoyer les vins directement, et après sur la partie communication, donc on a une personne qui va gérer le web marketing, on va dire. Sur l'ensemble des trois pays. Et puis après, ben, on le fait déjà sur l'Angleterre, on est déjà bien organisé avec une newsletter chaque semaine, des emailings de promotion et tout ça par moment. Et après, un peu de réseaux sociaux, mais on est pour l'instant très, très léger sur les réseaux sociaux. On n'est pas assez présent. Voilà, du coup, l'idée, c'était de trouver des petites choses qui nous permettraient d'accélérer un peu le temps. Parce que ce qu'on a fait en Angleterre, on l'a fait en 30 ans.
Oui, donc là, la patience, c'est bon. Mon petit message du début, tu comprends, tu l'as bien en tête.
La seule différence, c'est que l'Angleterre, si j'étais pas présent au domaine à l'époque, mais quand ils l'ont lancé, donc c'était en fin des années 80, donc ils ont créé un club privilège, en fait, qui, en fait, ça existait pas avant. Il y avait aucun domaine dans le monde qui avait ça. Donc le propriétaire, le créateur du domaine a été très visionnaire. Et du coup, ils sont très vite montés avec une grosse database anglaise. Nous, on n'a pas trop le temps d'attendre 30 ans. Et il n'y a pas non plus cet effet surprise de visionnaire qu'avait eu notre prédécesseur il y a 30 ans. Donc, on va accélérer un peu le temps.
Je comprends. Mais en fait, je reviens quand même à mon premier point. Je sais que ça peut paraître basique ce que je dis, mais tu vois, tu me disais en web marketing, on a une personne qui va gérer les trois comptes, et ça, c'est normal. Mais par contre, avoir un chef de projet transverse, entre guillemets, au-dessus du web marketing, qui va dire en permanence, qui va coller aux fesses, si tu veux, ton responsable web marketing en te disant « Non mais là, attends, n'oublie pas qu'il faut dépenser tel budget sur la Hollande et je te conseille de tester telle région en particulier et de tester telle création. » Donc vraiment quelqu'un, si tu veux, qui soit dédié au développement de ces pays, ça me paraît assez important, parce que de mon expérience en tout cas, si jamais tu as des personnes qui doivent gérer plusieurs pays en même temps, bah la vie est faite de telle sorte que ils vont en fait concentrer leurs efforts plutôt sur ce qui marche déjà, parce que bah ça fonctionne, c'est plus facile et c'est plus rentable, si tu veux. Mais du coup, si tu veux faire un push de développement, faut quand même se dire qu'au démarrage, bah ça va pas forcément être très rentable, que ça va être difficile, qu'il va falloir innover. Et donc, il faut qu'il y ait une personne, si tu veux, qui soit un peu owner, qui soit responsable vraiment de ce développement, pour pouvoir ensuite faire travailler les différentes équipes. Mais peut-être que vous l'avez, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce point. C'est juste que ça me paraît important, parce que dans le cadre de cette accélération, justement, ce que tu souhaites, bah, c'est cette personne qui va être responsable de l'accélération, tu vois, qui va justement faire en sorte que ça ne prenne pas 30 ans, mais qui va pourchasser toutes les ressources que vous avez en interne pour pouvoir les recentrer sur la partie pays. Et je pense qu'une personne peut éventuellement gérer deux pays, surtout si c'est au lancement, et à terme, tu vois, pourra en gérer même peut-être trois. Mais disons que que ça soit un peu diffus, si tu veux, la responsabilité, ça me paraît en tout cas dangereux. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Et puis alors après, par rapport à ce que tu disais, honnêtement, une fois de plus, il n'y a pas de vérité révélée sur ce qu'il faut faire en marketing. Moi, j'aurais tendance à dire que bah, si justement vous avez cette personne-là, ça serait hyper intéressant de faire un espèce de petit, alors audit, le mot est trop fort, mais de commencer à construire un plan marketing, quoi. Je sais pas si vous l'avez fait, mais un plan marketing de quelles sont les actions auxquelles on croit le plus pour tel pays. Peut-être que tu vois, en Hollande, les gens sont hyper, hyper présents sur les réseaux sociaux, et du coup, il va falloir appuyer à mort sur les réseaux sociaux versus, bah, peut-être que c'est, tu vois, moins le cas, en fait, qu'en Angleterre, et donc c'est peut-être moins pertinent. Et auquel cas, en Hollande, peut-être qu'il faut plutôt faire des événements. Et dans ce cas, cette personne pourra peut-être trouver des relais locaux pour faire des relations publiques et en fait créer beaucoup plus un système de bouche à oreille. Ça peut être une option aussi. Donc je dirais que vraiment, une fois de plus, j'en reviens toujours à une question de ressources humaines. Je pense que cette personne, que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un d'autre dans l'équipe, il faut qu'en fait, elle ne fasse que vivre, manger, boire pour, en l'occurrence boire, c'est bien le cas de le dire, pour le pays, et qu'elle défende auprès de l'entreprise, si tu veux, en permanence, les intérêts du développement de ce pays. De telle sorte que si vous devez développer quelque chose de neuf sur le site internet, bah, elle pousse toute la journée pour développer quelque chose qui va être utile pour la Hollande, par exemple.
Ok. En fait, on est en construction de ce plan marketing. Et on avait pas mal de questions qui arrivaient parce que, alors, au niveau ressources humaines, on est un petit domaine viticole, on n'est pas une grosse.
Ouais, j'imagine.
Et du coup, c'est pas non plus évident. Et du coup, on se posait la question si un bon plan marketing, on va dire, traduit dans chaque langue pouvait être efficace, ou comme j'avais en tête d'avoir quelque chose de plus simple mais qui soit à chaque fois vraiment dédié au pays, parce qu'on est chaque pays a des cultures différentes. L'Angleterre, voilà, par exemple, c'était un bon exemple, mais quand on a envoyé les newsletters ces dernières semaines, on peut pas se passer de ou ne rien envoyer quand la reine est décédée, ou de pas mentionner ça. Donc c'est à chaque fois, il y a les cultures et il y a ce qui se passe dans le pays qui est à chaque fois propre au pays. Et j'avais en tête que c'était compliqué de faire un plan marketing général
global
produit à chaque fois.
Bah écoute, nous, la manière dont on est organisé chez Gémio, c'est qu'il y a un plan marketing général, au sens où, tu vois, les lancements de collections, enfin les actualités de la marque, ça, pour le coup, tu peux avoir un plan général. Mais ensuite, une déclinaison par pays semble utile pour avoir des événements par pays, par exemple, pour faire, si vous en avez les moyens, de l'achat média par pays, par exemple. Donc, je dirais qu'en fait, c'est bien d'avoir un chapeau général qui est transverse. Et puis ensuite, effectivement, bah, ton exemple de la newsletter, il est super pertinent avec la reine d'Angleterre, que vous puissiez avoir des adaptations locales. Parfois, tu n'auras pas besoin et c'est tant mieux, tu vois, tu pourras juste traduire. Et puis, de temps en temps, tu seras quand même bien content de pouvoir dire quelque chose qui va vraiment parler au cœur de ta clientèle ou avoir des actions supplémentaires. Donc, c'est pour ça que mon point, c'est pas de dire forcément que tu as besoin d'avoir 15 personnes qui le font. Je me doute bien que vous n'avez pas, tu vois, même, entre guillemets, même nous et plein de boîtes n'ont pas les moyens, quand ils lancent un pays, d'avoir 15 personnes. Mais une personne gestionnaire de projet qui ensuite puisse faire travailler d'autres sources, donc soit en interne, soit même, tu vois, passer par des freelances. Quelqu'un, par exemple, qui est une influenceuse locale que vous payez ou à une personne spécialiste, tu vois, je dis influenceuse, mais ça peut être quelqu'un dans le secteur du vin qui s'y connaît hyper bien, qui a un gros réseau et que vous payez pour organiser des événements pour vous. Et donc, qui n'est pas forcément salarié, mais qui est quelqu'un qui va être payé vraiment comme une mission, tu vois, de relations publiques ou de relations presse, par exemple. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire, donc que vous n'ayez pas 150 personnes en interne pour gérer l'international. Mais par contre, que tu es vraiment quelqu'un qui en gère le projet et qui coordonne un peu tout le monde, ça me paraît un peu indispensable, parce que sinon, le risque, une fois de plus, c'est que bah, vous lanciez le projet et que ça mette effectivement 30 ans, parce qu'en fait, il n'y aura personne qui va pousser en permanence pour faire passer, tu vois, en priorité les actions pour ces deux pays. Et du coup, le risque, bah, c'est concrètement que vous retrouviez... parce que on a toujours trop de boulot quand on est dans une PME, que vous vous retrouviez en fait à bosser plus pour déjà l'existant, quoi.
Oui, bien sûr. Et de ton expérience, en fait, les achats médias, c'est quand même un effet booster important.
Alors, l'achat média, il y en a de mille sortes. Il y a des achats médias, en fait, de l'influence. Ça n'est rien d'autre que de l'achat média, tu vois, d'une certaine manière, puisqu'en fait, tu vas payer quelqu'un pour recommander ton produit. Donc, ça peut effectivement avoir un très bon impact, surtout si jamais tu as des communautés qui sont engagées. Donc, quand on dit achat média d'un influenceur, c'est pas forcément, tu vois, Caroline Receveur avec ses 3 millions de followers. Ça peut être quelqu'un qui, dans ton pays, donc en Hollande, par exemple, va être un spécialiste du vin et qui va parler sur YouTube, par exemple, qui peut être typiquement un endroit où, à mon avis, il y a pas mal d'amateurs de vin, qui va parler de ton domaine. Ça, tu vois, ça peut être un achat média hyper ciblé, hyper intéressant. Ça peut être aussi effectivement de l'achat média, donc dans des magazines. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des blogs, etc. Donc, déjà, première chose, c'est assez large. Ce que je peux te dire, c'est que il y a deux quand même catégories d'achat média. Il y a ceux où il y a vraiment une recommandation. Et donc là, c'est quelqu'un qui va s'engager, donc un influenceur, un blog, etc. Et là, il faut de la répétition, mais disons que tu as quand même un impact héroïste assez fort, puisque souvent, quand il y a quelqu'un qui va recommander quelque chose, bon bah son audience, qui est souvent assez engagée et fan, va quand même aller regarder. Enfin, je te dis pas que c'est systématique, mais il y a souvent un impact qui est assez rapide versus de l'achat média qui est un peu plus un achat média de notoriété, donc typiquement dans un magazine, où là, en général, l'impact, il est plus sur la marque, sur la notoriété, et il donne ses fruits dans le temps, mais ça nécessite plus de répétition. Parce que c'est, enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais c'est pas en général parce que t'as vu une pub une fois dans un magazine que tu vas acheter le produit, tu vois. C'est parce que tu l'as vu 5 fois et qu'au bout de la 5e fois, il se trouve que t'as un besoin et donc là t'y vas.
Oui. Et surtout que le vin, c'est quand même, même si je pense qu'à chaque fois, les personnes qui vendent un produit ont dit que c'est à chaque fois quelque chose de spécial. Mais
ouais.
Le vin.
Non, mais c'est le cas sur le vin quand même.
Une personne de 30 ans, c'est un adolescent dans la cible marketing du monde du vin. Donc c'est.
Mais c'est pour ça que moi, sincèrement, je connais pas grand chose à votre marché, hein. Donc là, je te dis ça en plus, en discutant avec toi de manière très spontanée. Je pense pas que je m'orienterais sur des plans médias, surtout si vous avez pas forcément énormément de ressources pour un plan marketing de notoriété. Donc ce que j'évoquais, par exemple, dans la presse. Je pense que je ciblerais vraiment sur des actions qui peuvent avoir un impact assez direct, si tu veux, sur vos ventes. Donc, typiquement, de l'événementiel avec des clubs de dégustation de vin, des influenceurs dans le monde du vin, des youtubeurs dans le monde du vin. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais même des petits, tu vois, qui ont 2-3 000 abonnés. En fait, c'est 2-3 000 personnes forcément hyper fans. Il vaut mieux ça trouver, et ça, j'en parle beaucoup dans ma formation Cibler efficacement ses clients. Il vaut mieux que tu trouves un média, un influenceur, enfin, en tout cas, un ciblage qui est très fin, tout petit, mais qui te permet d'avoir une cible qui est vraiment hyper précise et pertinente pour toi, plutôt que d'essayer, et surtout ça coûte beaucoup plus cher, d'essayer en fait de viser trop large au début, où franchement vous allez vous ruiner pour un impact qui en général est assez faible. Donc moi je te recommanderais en fait de multiplier énormément de petites actions, où en général c'est plus du temps sincèrement que de l'argent, de faire des événements, de faire, tu vois, des partenariats avec des blogs, de faire des partenariats avec des influenceurs, pour en fait petit à petit déjà commencer à construire cette première base de clientèle, potentiellement en plus d'ailleurs pour être mis dans votre programme ambassadeur et donc va devenir une clientèle récurrente, ce qui est toujours bien, fidèle, et puis ensuite dans un deuxième temps d'élargir. Mais je commencerai vraiment par en fait tout simplement des amateurs de vin, une niche qui paraît pertinente pour vous et qui à mon avis sera plus facile à cibler que juste essayer de taper un petit peu plus large. Donc voilà, donc j'en reviens encore, et tu vas en avoir marre que je ressasse toujours les mêmes choses, au fait que tout ça, comme c'est beaucoup de travail, parce que tu as compris, c'est pas t'appuies sur un bouton en web marketing et en fait tu dépenses 20 000 euros par mois et du coup ça tombe tout seul, ce qui est un peu le rêve de tout marketeur bien sûr, hein, de ne pas avoir beaucoup de travail et de réussir à avoir une martingale. Malheureusement, mon expérience en marketing, c'est que c'est quasiment jamais le cas et qu'en fait c'est une succession de plein de petites actions malines, intelligentes et donc du temps et de l'intelligence qui vont vous permettre, si tu veux, d'avoir une somme de résultats qui va faire que votre chiffre d'affaires va beaucoup augmenter. Donc voilà, ça va un peu contre l'idée reçue qu'il y a un truc incroyable qui va faire que tout d'un coup, vous allez cartonner. Mon expérience, c'est qu'en fait, le truc incroyable, c'est en fait une somme d'un millier de petites choses qui accumulées en fait font quelque chose de très grand. Tu sais, c'est la fameuse phrase « les petits ruisseaux font les grandes rivières ».
Ouais. Oui, l'idée novatrice est révolutionnaire. Elle est souvent très rare.
Écoute, elle peut, comment dire? Elle peut arriver, je te dis pas que c'est impossible, mais effectivement, c'est assez rare et souvent, elle est en fait, elle dure un temps, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire que ton entreprise toute la vie va durer. Je te donne un exemple. Nous, par exemple, avec Gémio, on a eu la chance par moment d'avoir des passages télé. Donc, un passage télé, tu vois, typiquement, ça te fait passer un cap parce que tout d'un coup, on avait un gros passage télé, par exemple, sur Capital, sur M6 en France. Et oui, on a eu énormément de chiffre d'affaires dans les 3 mois qui ont suivi. Et tout d'un coup, on avait 100% de croissance, c'était incroyable, on marchait sur l'eau, tu vois, on avait quasiment plus besoin de faire de marketing, ça tombait tout seul. C'est la vérité. Mais ça durait 3 mois. Et ensuite, c'est redevenu normal. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce genre de choses, c'est pas pérenne. Ce qui est pérenne, c'est de construire des stratégies marketing avec plein de petites actions. Comme ça, en plus, tu diversifies ton portefeuille de risques. Et tu sais que tu vas avoir plein de lignes de revenus différentes potentielles, ce qui fait que tu vas finir par construire quelque chose de très intéressant. Ça, en B2C, franchement, c'est très fréquent. Voilà, bah écoute, j'ai envie de te dire bonne chance pour ce grand monument, mais c'est hyper excitant parce que c'est un super projet. Et bravo en tout cas de te lancer là-dedans, quoi, parce que c'est quand même un sacré cap pour le développement de votre entreprise.
Oui, c'est très intéressant, excitant et. On a hâte déjà de voir le site web fini pour voir comment ça donne. On a fait travailler les photographes, on a fait pas mal de travail dessus ces derniers mois. En plein milieu des vendanges, là, c'était des fois un peu rapide, mais on a réussi à faire quelque chose de sympa, je pense. Donc, on va essayer que ça marche.
Et alors, dis-moi, Mathieu, est-ce que tu peux nous révéler le nom du domaine? Parce que je ne crois pas que tu l'aies dit. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont être intéressées.
C'est Domaine du Grand Maine. On est en Côte de Duras. Donc, c'est une petite appellation dans le sud-ouest de la France. Et c'est un domaine qui fait des vins de super qualité. On a un terroir vraiment magnifique et on a une équipe vraiment exceptionnelle qui porte une attention très particulière à tous les pieds de vigne, tous les détails qui font qu'on essaye de faire des vins qui sortent de l'ordinaire et qui marquent les gens le plus possible.
Alors justement, fais-nous un peu rêver pour qu'on termine là-dessus sur une note douce. Quelle est la spécificité de vos vins? Est-ce que tu pourrais un peu décrire ce qu'on peut attendre si jamais on... Alors déjà, on passe le cap pour devenir client.
D'un point de vue général, le domaine a un plan, un projet agroécologique très important, global, avec un mélange de carbon footprint, d'attention au bilan carbone, de biodiversité, qui nous permet d'avoir très peu d'intervention sur le vignoble, autre que manuel, et du coup qui nous permet de faire des vins. Des vins de qualité tout en finesse. Donc, on est plutôt sur des vins, on n'est pas sur des vins bodybuildés, on est sur des vins fins et complexes qui peuvent correspondre à tous les moments à peu près de dégustation. On fait blanc, rouge et rosé avec une cuvée plutôt fruitée, légère. On est en train aussi de changer la gamme, donc il va y avoir des petits changements. D'accord. On fait plein de choses en même temps. Mais du coup, avec une gamme plutôt fruitée, légère qui va correspondre à, on va dire, des vins de tous les jours pour l'apéro ou pour tous les jours, voilà. Et après des cuvées un peu plus complexes, plus travaillées, avec des sélections parcellaires différentes qu'on élève en barrique souvent, mais dont la barrique est juste un peu comme le sel et le poivre en cuisine, et là pour exhauster les goûts mais pas pour masquer l'ensemble. Donc des vins, voilà, plus de gastronomie.
Miam. Ça donne envie. Écoute, Mathieu, merci mille fois en tout cas pour ta question. Je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Tiens-moi au courant. J'espère que vous allez atteindre votre objectif en peu de temps. En tout cas, merci pour ta question et je te dis à bientôt.
À bientôt.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, et bien c'est très simple, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter, et puis pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.